9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre service, bonjour, bienvenue. Nous allons parler du ver de terre aujourd'hui. Vous vous demandez qu'est-ce qui me prend par la tête. Vous allez voir, nous allons faire connaissance avec lui et on en a besoin au même titre que des abeilles, des vers de terre. Mon invité s'appelle Christophe Gatineau, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes agronome spécialisé en permaculture et en agroécologie et vous êtes géodrilologue.
Non.
Bah si.
Bah non. Non, c'est pas ma spécialité, le ver de terre.
Géodrilologue,
en fait. Oui, évidemment.
Voilà,
évidemment.
Le géodrilologue et le spécialiste du ver de terre.
Voilà.
Mais
voilà.
Vous n'êtes pas spécialiste du ver de terre?
Non, je suis spécialiste de plein de choses. Quand on est agronome, quand on s'intéresse à l'environnement, en fait, hein, au monde qui nous entoure, en fait, on est spécialiste de, on s'intéresse à tout, hein, d'une manière globale. En particulier, bon, moi, c'est vrai qu'en particulier le ver de terre, mais je peux vous parler pendant une heure du hérisson, ou je peux vous parler du moineau qui vit devant chez moi, ou de la pie qui passe.
Vous êtes un couteau suisse.
Non, pas un couteau suisse. C'est ce monde qui nous entoure est un monde fabuleux. Alors pourquoi j'ai écrit sur le ver de terre?
Vous êtes parti là. Non, mais attendez, vous faites les questions et les réponses.
Non, je voulais simplement rajouter.
On a une heure pour parler.
Je voulais simplement rajouter que le monde qui se trouve sous la semelle de nos chaussures, on le méconnaît. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre sur son représentant le plus éminent et qu'on peut croiser au petit matin.
Voilà, le ver de terre. Donc, moi, je voulais utiliser ce mot-là, géodrilologue. Je voulais l'utiliser et l'user jusqu'à ce qu'il me soit familier et qu'on puisse l'utiliser toute la journée, toute la semaine. Mais bon, vous êtes tout simplement un observateur, alors.
Absolument.
Puisque les vers de terre dont vous parlez, eh bien, vous les avez beaucoup observés. Vous publiez Éloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir aux éditions Flammarion. Et c'est vrai que vous les avez beaucoup observés, le ver de terre. Vous vous êtes mis à hauteur de ver de terre. Et quand on l'observe de près, qu'est-ce qu'on peut voir qu'on n'imagine pas?
En fait, déjà, il faudrait dire que le ver de terre, en fait, c'est un symbole, c'est une sorte de nom générique. Hein. Le ver de terre, il n'existe pas finalement. Hein. Il y a un ensemble d'espèces de vers de terre. Je crois que c'est vraiment important. Et vous me permettez de digresser un tout petit poil dans ce début d'émission. Voilà, ok.
Digresser.
Ah, ok. Allez. On parle du ver de terre, il y a 150 espèces de ver de terre, en fait, et c'est entre une espèce et une autre, entre une espèce qui vit à la surface et une espèce comme le lombric terrestre auquel j'ai tracé le portrait, en fait, dans ce livre, en fait, il y a autant de différences qu'entre un éléphant et une souris, voilà. Et quand on parle de biodiversité, souvent, on va parler, en fait, des oiseaux. Ah, les oiseaux, c'est l'effondrement des oiseaux, l'effondrement de la biodiversité. Ah, les abeilles, il faut sauver les abeilles. Non. En fait, peu de gens savent que finalement, vous savez, les abeilles qu'on veut sauver, ce sont des abeilles hybrides qui n'existent pas dans la nature. C'est ça qui est absolument étrange. Il y a 1000 espèces d'abeilles en France. 2000 en Europe, 20 000 dans le monde. Voilà. Ces abeilles qui sont en danger. Pas les abeilles hybrides qui ont été fabriquées par l'homme pour produire du miel comme des Formule 1, quoi. Voilà. Alors quand on s'intéresse au ver de terre, en fait, moi je me suis intéressé à une espèce qui s'appelle le lombric terrestre.
D'accord.
Et ce lombric terrestre, on peut le rencontrer. Alors, je dirais sa face visible, finalement, c'est ce qu'on appelle ses gros turicules. C'est-à-dire qu'il vient faire caca, il dépose une partie de ses caca à la surface.
Nouveau mot, turicule. Voilà. Important.
Oui.
Vous avez raison de préciser les choses. Alfred Sauvy disait vocable unique, réalité multiple. Mais c'est vrai que voilà, il y a 150 familles
espèces de vers de terre.
À quelle famille il appartient le vers de terre? Est-ce que c'est un insecte? C'est quoi précisément?
Ben, disons que ça aurait pu être un insecte en fait, mais c'est pas un insecte. Alors le nom scientifique, là vous me prenez au dépourvu.
Non, je sais pas.
Le cerveau qui bug là à ce moment-là.
C'est un élidé
en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi? Parce que il y a des anneaux. Voilà, tout simplement. Il fait partie de. Alors, quand on dit les vers, les vers, c'est il y a des vers qui vivent sur le sol. Hein. Ce sont ce qu'on appelle les vers de terreau. Les gens disent ah, j'ai plein de vers de terre dans mon jardin. Et ils se trouvent où dans votre terreau? Ben ouais, dommage, c'est pas des vers de terre, c'est des vers. Les paysans appelaient ça des vers de fumier, tout simplement. Et puis il y a des vers qui vivent dans l'eau, qui vivent dans l'eau aussi. Vous savez, quand vous allez au bord de la mer, dans les vases,
on les voit.
Ce sont aussi des vers. Et puis dans l'eau douce, il y a les sangsues font partie aussi de la même famille. Je veux dire, donc c'est une grande famille. Je crois d'ailleurs, j'en suis même absolument certain, il y a 6000 espèces de vers dits de terre dans le monde.
Ça vit combien de temps, un vers de terre?
Alors voilà, ça c'est une question qui est particulièrement intéressante, je vous remercie de me l'avoir posée. Pourquoi? Eh bien parce que...
Non. Je sais pas, est-ce que vous savez tout sur le ver de terre?
Non, parce que moi, je suis spécialisé sur une espèce, c'est-à-dire que c'est la plus commune, c'est le lombric terrestre.
Bon,
c'est
ce qu'on appelle le ver terrestre.
Mais c'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Parce que justement, le ver, les vers que tout le monde dise, enfin, ceux qui disent, ah, les vers de terre, ceux qui vivent dans le terreau, la surface, ils vivent très peu de temps, ils vivent suivant les espèces, entre 1 an à 2 ans, ils se reproduisent tous les 40 jours, ils sont, c'est vrai, d'apparence un petit peu gluante, ils vivent dans une vie quasi sociale, ils vivent dans les déchets, alors que le ver auquel j'ai dressé le portrait, en fait, on a quand même un animal qui a de la tenue, qui vit pratiquement aussi vieux qu'un chien de race, c'est-à-dire 8 ans, hein, ok, qui se reproduit qui arrive à maturité sexuelle à partir de 9 mois.
Je crois qu'ils étaient hermaphrodites.
Mais ils sont hermaphrodites, oui, bien sûr. Bon, ouais. Même s'ils s'auto-pénètrent, hein, finalement, mais bon, c'est plutôt pratique, d'ailleurs, hein, d'avoir les deux engins sur soi, quoi. Bon. Non,
je vous laisse. C'est vrai que parfois, bon.
Il me semble que dans le studio, tout le monde a ricané.
Non, personne n'a ri, ça s'est pas vu, on fait de la radio. Laissez-nous rire discrètement.
Mais c'est vrai.
Oui.
Vous êtes
resté, hein, c'est plutôt pratique d'avoir les deux engins sur soi, et là vous êtes arrêté, donc il faut enchaîner.
Je vais enchaîner, donc ce que veut dire, c'est que cet animal, il se reproduit une fois par an,
oui.
Et il va donner naissance, en fait, entre 10 à 30 petits, la moitié ne survivront pas, donc on a une espèce qui se reproduit très peu et qu'on ne sait pas élever de manière, je dirais, artificielle, comme certaines espèces de vers, voilà. Alors ce qui est rigolo avec ce ver de terre, donc, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il vit plus dans une galerie, il vit dans un terrier, en fait. Hein. Donc, il se construit un terrier qui débouche bien évidemment à la surface et qui est gros, plus ou moins perpendiculaire à la surface du sol. Et il va descendre, en fait, se construire une...
À quelle profondeur, alors, il vit ?
Alors, ça dépend, on va dire, de l'épaisseur du sol. Mais ça varie, il peut descendre suivant aussi les conditions extérieures. Hein. C'est-à-dire que plus les conditions extérieures sont difficiles, hein, au niveau de la sécheresse, au niveau du froid, il va descendre jusqu'aux argiles. En fin de compte, c'est-à-dire cette couche qui précède la roche-mère. Alors, il peut descendre jusqu'à 50, 60, 1 mètre, 1 mètre 50. Je crois qu'on en a même retrouvé jusqu'à 2 mètres. Et là, au niveau des argiles, il va se construire ce qu'on appelle... Alors, l'information, c'est tout ce que je vous dis. En fait, ces informations, on les connaît depuis le 19e siècle. Hein. Des chercheurs allemands avaient travaillé...
Il y a des livres très sérieux sur les vers de terre.
Absolument. Ouais. Je crois que... peu de gens savent finalement que le plus grand observateur,
c'est Darwin,
c'est Charles Darwin, qui pendant 40 ans durant,
livre sur le, voilà, sur le sujet, et qu'il maîtrisait très très bien.
40 ans d'observation,
ouais.
Voilà. Et 40 ans d'observation, il clôt son œuvre sur le ver de terre et sur son concept de terre animale. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à parler de terre végétale, c'est-à-dire comme si la terre était fabriquée.
Ça demande un long développement, ça. On en reparlera tout à l'heure,
okay,
justement, de la terre animale. Alors, si on est là pour parler du ver de terre, aujourd'hui, c'est que selon l'INRA, 80% de l'espèce a disparu des terres cultivables en France. Qu'est-ce qui se passe ?
Ben, qu'est-ce qui se passe ? C'est, on a... Pendant des millénaires, les paysans, sur toute la surface de la planète, coopéraient avec la nature, ils collaboraient avec la nature, et donc avec les animaux qui vivent dans la nature, et en particulier avec les vers de terre, avec les oiseaux, enfin bon, avec toute la faune et la flore. Et puis il y a 50 ans, il y a un nouveau modèle qui est importé des États-Unis et qui, au lieu de nourrir la biodiversité, c'est-à-dire cette diversité, l'environnement, la nature, a décidé, par souci d'économie, de nourrir directement les plantes. Alors bon, on va rentrer un tout petit peu dans la technique, mais grosso modo, on est passé...
C'est fondamental. Comprendre ça, c'est fondamental.
Absolument, voilà. On est passé d'une alimentation organique, en fait, hein, c'est-à-dire à partir de végétaux, parce que notre ver de terre, comme l'ensemble, mange des plantes, hein, des plantes ou des débris végétaux, hein, comme nous, il est même omnivore, il mange même de la viande, hein, s'il en trouve, c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois au petit matin dans son jardin. Et tout ça pour dire qu'en fait...
Faire attention à quoi ?
Faire attention pour faire mordre par un...
Non.
Non.
Non, vous avez déjà essayé d'approcher votre doigt d'un ver de terre, qu'est-ce qui vous a fait ?
Non, rien en fait, nous on se connaît, c'est différent.
Ah oui, d'accord. Mmh. Non, je...
Ouais. Et donc l'agriculteur, on a basculé d'une agriculture organique à une agriculture chimique, c'est-à-dire qu'on va nourrir directement la plante avec des engrais chimiques, et comme la plante, en fin de compte, on coupe la plante de son environnement, et bien on va ensuite la soigner parce qu'elle est déséquilibrée, donc avec des pesticides, avec des régulateurs de croissance, et puis tout le fourbi qu'on connaît en fait aujourd'hui, et voilà.
Donc, ça veut dire que Monsieur Roundup a eu raison des vers de terre.
Oui, on pourrait le résumer comme ça, mais surtout, c'est vraiment aujourd'hui la diversité biologique, c'est-à-dire que les animaux du sol qui vivent dans le sol, dans l'air ou dans l'eau, hein, ce sont les trois milieux où se manifeste la vie, meurent de faim. On a créé une famine en fait. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui,
c'est-à-dire que les terres sont de plus en plus pauvres, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'on a oublié de cultiver. Pour la autrefois, les paysans. Alors, quand on parle des paysans, c'est pas des paysans français. Enfin, je veux dire, monde paysan. Enfin, je veux dire, il est. On retrouve ce même l'état d'esprit paysan et planétaire. Hein, c'est depuis la nuit des temps, hein, finalement. Ben, les paysans, qu'est-ce qui autrefois, par exemple, pour la culture du blé. Il y avait un adage qui disait le grain pour l'agriculteur, la paille pour la vie du sol. Aujourd'hui, les blés ont très peu de paille et cette paille, elle est commercialisée. Commercialisée, ça veut dire qu'elle est exportée. Donc, qu'est-ce qui reste pour les vers de terre et puis tous les bestiaux? Il reste quelques racines, quelques maigres racines. Et de plus, ces racines, en fait, elles sont restées à la surface du sol, elles ne sont pas développées parce qu'on leur a apporté une alimentation artificielle. C'est comme quand on vous met... Quand on vous met sous perfusion, en fait, on va vous apporter l'alimentation. Ouais. C'est la même chose. Donc, toutes ces plantes sont sous perfusion, donc elles se développent très peu. Et voilà, en fait. Et alors, ça, c'est un des points, c'est-à-dire le problème des résidus de récolte. Ensuite, c'est le problème des... Alors, il y a le problème, évidemment, du labour, mais...
Parce qu'on a beaucoup accusé le labour d'être à l'origine de la disparition des vers de terre.
Bien entendu, on va toujours on simplifie toujours les choses. On va vers, oui, on réduit, on amincit, et puis en fait, finalement, on réussit par se tromper, quoi. Voilà pourquoi. Ben parce qu'on a perdu le fil, en fait, de l'histoire. Le fil de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, les sols entre deux cultures, les sols vont rester nus. Et que faisaient les anciens autrefois? Quand je dis les anciens, j'aime bien ce mot.
Les anciens.
Voilà, les anciens, que faisaient-ils? Ben, entre deux cultures, ils faisaient ce qu'on appelle des intercultures. C'est-à-dire aujourd'hui, on appelle ça plutôt des engrais verts. On a l'impression qu'on a inventé ça. On l'a simplement remis au goût du jour. Ils cultivaient des plantes. Et même dans un bouquin du XVIIe siècle, ils disaient cultiver des plantes succulentes. Voilà. Pour la vie du sol. Parce que notre ver de terre, notre nombril terrestre, il a des papilles gustatives extrêmement développées et il choisit sa nourriture. Et il est manifeste que plus la nourriture qu'on lui offre est agréable, plus il fonctionne comme nous, en fait. Quand on a le ventre plein, on a envie de se reproduire.
Donc finalement, qui est à l'origine de la disparition du ver de terre? Du nombril?
C'est un ensemble, je dirais, c'est ce modèle agricole américain qui est exporté en France. Et comme en France, comme dans beaucoup de pays du monde, en fait. Et puis c'est l'industrialisation, c'est-à-dire que c'est une vue à court terme. C'est un problème de modèle agricole et de technique agricole, en fait. Il y a un choix de société, c'est-à-dire que l'être humain a choisi à un moment de s'émanciper de la nature, en fait, hein, voilà, de son environnement et d'imposer sa manière de faire. Alors, faut pas cracher la soupe, hein, je veux dire, on a obtenu des rendements absolument fabuleux. Le seul souci de cette agriculture, c'est qu'elle n'est pas durable. Autrement, elle est fantastique. On a triplé les rendements, quadruplé les rendements. Et je veux dire que on a aussi, enfin en tout cas en Occident, mais dans beaucoup de pays, je veux dire, éliminé la famine. Mes arrière-grands-parents avaient connu la faim. Voilà.
On parle du ver de terre avec vous, Christophe Gatineau. Éloge du ver de terre. Notre futur dépend de son avenir. C'est aux éditions Flammarion. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
À votre service. Reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle du ver de terre aujourd'hui avec mon invité Christophe Gatineau. Je rappelle que vous êtes agronome spécialisé en permaculture et en agroécologie et que vous avez un blog d'ailleurs qui s'appelle Le Jardin Vivant, qui connaît beaucoup de succès et qu'actuellement vous cultivez un lopin expérimental à Compreignac, c'est dans le Limousin.
Absolument.
Ce qui fait que vous êtes venu en train ce matin.
Oui.
Vous avez pris l'intercité.
Absolument.
Bien. Alors, on parle du laboureur préféré des Français. Si on en parle aujourd'hui, en général, quand on fait l'éloge de quelqu'un, c'est que ça sent le sapin. Hein.
En l'espèce.
Hein. En l'espèce, ça veut dire que le ver de terre, et plus précisément le lombric dont on parle ce matin, est en train de disparaître. Alors, s'il disparaît, pourquoi est-ce que c'est important? Quel est son rôle, finalement, à ce lombric?
Alors, bon, faut, ce lombric... Alors, Les vers de terre, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, le vers de terre reste un symbole, en fait, hein, le symbole d'un écosystème, hein, parce que l'écosystème souterrain, c'est-à-dire l'ensemble de la vie qui vit sous terre, en fait, hein, voilà, ça comprend le monde bactérien, ça comprend évidemment le vers de terre, mais aussi les champignons, etc. Voilà, il y a les algues, etc., etc. Donc c'est vraiment un monde extrêmement diversifié. Cependant, dans ce monde diversifié, c'est ce monde diversifié qui fabrique la nourriture pour les plantes. C'est pour ça que ça nous intéresse. Mais dans ce monde diversifié, les vers de terre pèsent lourd, puisqu'ils pèsent 80% de la masse des êtres vivants qui fabriquent finalement les sols. C'est ce que nous a appris Darwin, c'est-à-dire que les vers de terre, en fait, fabriquent le sol. Et en quoi ça nous intéresse, le sol? Ben parce que les plantes ont besoin de sol pour pouvoir pousser, mais elles ont besoin de nourriture, et les vers de terre fabriquent la nourriture pour les plantes, et nous, on consomme les plantes ou les animaux qui consomment les plantes. Et 90, 95, voire 100% de notre alimentation provient des sols. Donc si on n'a plus de sol, on n'a plus de nourriture. Ça me semble tout ça assez basique finalement.
On va expliquer aux gens, nous, quand on a envie d'aller aux toilettes, on va aux toilettes. Eux, ils vont dans la terre. Et donc, alors je prends des chiffres, alors je ne sais pas ce que ça vaut. Le ver de terre humecterait 1000 tonnes de terre par an avec leurs urines et 300 tonnes transiteraient par leurs intestins. Par leur caca. Donc c'est ça, en gros, ils fertilisent les sols avec
bien évidemment, mais le sol, en fin de compte, le sol se fabrique à partir des déjections, en fait, hein, des restes, donc soit des urines, soit des matières. Mais bon, aujourd'hui, la plus grande catastrophe écologique, c'est que nous-mêmes, c'est-à-dire toutes les déjections et les urines des êtres humains aujourd'hui sont gaspillées, c'est-à-dire sont considérées comme un déchet ultime.
C'est-à-dire qu'on pourrait les utiliser.
C'est pas qu'on pourrait, c'est qu'on devrait les utiliser. Mmh. C'est-à-dire que là où ça pose des soucis, c'est qu'on a, par exemple, des nutriments extrêmement importants pour les plantes, comme le phosphore, et les réserves de phosphore, on est en train de les épuiser dans le sol.
Alors, ceux qui nous écoutent en Algérie, vous avez des réserves de phosphore.
Absolument.
Au Maghreb. Ouais. Et donc, on pourrait utiliser donc nos déchets pour...
Pendant des millénaires, on a recyclé en fait tous nos déchets, au même titre qu'on recyclait les fumiers, c'est-à-dire les déchets des mammifères. Nous sommes des mammifères.
Donc, le rôle... principal, finalement, et c'est le sol qui peut le faire, finalement, le ver de terre, c'est de fertiliser la terre, c'est
alors,
ça?
Voilà, c'est pas le sol qui peut le faire, hein. Il y a plein d'animaux qui peuvent faire ça. Ce qui est surtout important dans le cas du ver de terre, c'est qu'il représente 80% de cette vie, en fin de compte, de cette vie animale, voilà.
Mais vous dites que c'est l'ossature de la fertilité.
Alors, pourquoi c'est l'ossature de la fertilité? D'abord, parce que cet animal, à partir du moment où il niche dans le sol... Je vais reprendre pour vraiment illustrer. Donc, il vit dans un terrier. Au niveau des argiles, c'est-à-dire entre 50 et 1 mètre de profondeur, il se construit une petite chambre. Voilà. Dans cette chambre, il va aménager le sol. Alors, soit avec des petits cailloux, soit avec des graines. Et ça, on le sait depuis le 19e siècle, en fait. Et c'est là où il va se reposer. Ensuite, dans ce terrier, il va construire des étages. Et ces étages, ça va lui servir pour soit se reposer, soit tout simplement stocker de la nourriture. Parce que notre lombric terrestre, il stocke de la nourriture. Voilà.
Et c'est quoi sa nourriture?
Sa nourriture, c'est un omnivore. C'est-à-dire qu'il peut consommer de la viande s'il trouve un bout de viande. Un confrère, qui serait bizarrement décédé à proximité de son terrier devient une source de nourriture. Je veux dire, tout ça me semble normal, mais il adore en fait tout ce qui est petits choux, toutes les plantes au stade dicotylédon. Alors, le stade dicotylédon, c'est deux petites feuilles, elles sont très riches en azote, hein, et généralement très sucrées. Il adore le sucre comme nous. Je veux dire, c'est un être cellulaire. Je crois que on doit partager 50% de notre patrimoine génétique avec lui. On partage avec le monde du vivant d'être tous constitués de cellules. Voilà.
Et il a une intelligence très sophistiquée.
Alors cette intelligence, en fait, on le sait aussi depuis, enfin, on s'interroge, les scientifiques s'interrogent depuis le début du 19e siècle, en fait, c'est en Allemagne qu'on a commencé à s'interroger, et notamment quand on s'est aperçu que ce lombric terrestre, en fait, cultivait sa nourriture. C'est-à-dire qu'en l'absence de plantes succulentes, il va prendre un peu ce qu'il trouve, et il s'est aperçu qu'il pouvait ramasser du papier, des plumes, des morceaux de bois. Il est incapable de manger ces matériaux. Par contre, ce qu'il sait faire, c'est les mettre à composter, c'est-à-dire les faire prédigérer par les champignons ou par le monde bactérien, et après de les consommer. Et ça, de ce côté-là, on est peu d'espèces finalement sur la planète à transformer notre nourriture, cultiver notre nourriture, utiliser d'autres êtres vivants pour modifier cette nourriture. Il y a évidemment l'espèce humaine, on retrouve quelques espèces de fourmis et puis on retrouve le lombric terrestre. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a pas beaucoup d'espèces chez les vers de terre aussi qui ont ce comportement là. Alors vous parliez d'intelligence. Alors bien sûr, on s'intéresse.
Intelligence sophistiquée, hein.
Non, sophistiquée. Alors ça on le doit en soi aux travaux de Darwin, hein,
qui disait, vous disiez tout à l'heure, vraiment beaucoup observé, et qui disait qu'il avait une intelligence très sophistiquée.
En fait, lui, il a multiplié les expériences avec ses fils. Alors, ce qui est important, c'est pendant 40 ans, il a observé, et pendant 40 ans, il était surpris, et il n'a cessé d'être surpris, c'est pour ça qu'il a poursuivi ses expériences, parce qu'il trouvait que c'était incroyable que cet être, finalement, assez archaïque, voilà. Et parfois des raisonnements au moins égaux, disait-il, à certains animaux supérieurs. Parce qu'à l'époque, on considérait les animaux inférieurs, les animaux supérieurs. Et les animaux supérieurs, bien évidemment, étant les mammifères. Bon. Et donc, il a multiplié parfois des centaines de fois, des milliers d'expériences, parce qu'il était absolument... Alors, par exemple, quand il a découvert que ces bestioles s'aménageaient une petite chambre, voilà, et aménager le sol de leur chambre. Il s'est interrogé pourquoi. Et pourquoi il prenait autant de soin à faire ça. Pourquoi dans son terrier, il pouvait aussi aménager les parois de son terrier avec des feuilles. C'était absolument étonnant. Et puis surtout, comment y refermer. C'est-à-dire quand il le matin, dans la nuit, il monte, brouter à la surface comme une vache. Je crois qu'on peut garder cette image. Elle est belle, cette image. Que le lombric terrestre, il broute comme une vache, et que le matin, donc, dès que les premiers rayons du soleil arrivent, parce qu'il ne supporte pas le soleil, bien évidemment.
Il se terre
et il descend dans son terrier, et il va prendre beaucoup, beaucoup de soins à refermer son terrier. Alors, il va prendre des petits cailloux, il va prendre des feuilles. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Darwin a vraiment mis en évidence, quelle est sa part d'appris et d'inné, en fait, hein, et donc il a été jusqu'à lui déposer des feuilles d'arbres exotiques, etc. Et à chaque fois, le ver de terre trouvait une solution pour obstruer quand il prenait une feuille et qu'il la tirait à l'intérieur de sa galerie, ça fonctionnait pas. Plutôt que de s'obstiner bêtement comme font beaucoup d'animaux et même un certain nombre d'êtres humains, immédiatement il reprenait la feuille dans une autre position et une autre position jusqu'à temps de la faire rentrer. Voilà, il refermait délicatement. Mais ça, ce qui est le plus extraordinaire, voilà, c'est tout le soin qu'il pouvait prendre à refermer sa galerie, puis ensuite aller se reposer dans sa chambre. Mais quand les conditions climatiques étaient favorables et la nourriture foisonnante, il s'était aperçu qu'il prenait beaucoup, beaucoup moins de soin, comme nous on fait. C'est-à-dire que c'est l'idée du renard qui rentre dans un poulailler, qui devient fou et qui, la profusion, nous tourne la tête, et ça tourne aussi la tête de notre lombric terrestre. C'est beau, non?
Ouais. Et est-ce que vous exagérez quand vous dites que l'avenir de nos générations futures dépend de lui?
Bien sûr que j'aurais aimé exagérer, mais notre avenir, l'avenir de l'humanité dépend des sols. Voilà. Et comme ce sont eux qui fabriquent les sols, on ferait plutôt bien de s'y intéresser. Et comme aujourd'hui, vous savez, quand le ver de terre disparaît des sols, il y a une conséquence directe, ça s'appelle l'érosion. Alors l'érosion, pour les gens, ils savent pas trop, l'érosion c'est quoi exactement? C'est pas dur. C'est quand il reste des cailloux. Voilà, quand il reste des cailloux, les paysans, ils disent, les cailloux remontent de la terre. Voilà, moi, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai jamais vu un caillou remonter à la surface de l'eau. Enfin, en tout cas, ça doit être super rare, quoi. Voilà, bon. Et en fait, c'est la terre, le sol, hein, qui est le résultat d'un processus biologique. Voilà, hein, qu'on doit vraiment opposer à la matière minérale. En fait, quand ce sol part, il reste les cailloux. Et étonnamment, justement. Donc évidemment, dans les cailloux, même chez les agriculteurs, en fait, on oublie que la plante ne se nourrit pas de terre, elle se nourrit pas de matière minérale, enfin, elle se nourrit pas de cailloux, autrement, ça se saurait finalement, non?
Vraiment. Alors, Christophe Gatineau, vous êtes devenu le VRP, le défenseur, l'avocat du lombric. En France, il y a 200 espèces d'insectes qui sont protégées par la loi, sauf le bourdon, l'abeille et le ver de terre. Donc, vous, qu'est-ce que vous attendez finalement? Vous vouliez quoi? Un statut d'asile politique?
Oui, disons que le ver de terre est vraiment le premier collaborateur, le premier auxiliaire de l'agriculteur, en fait. Et comme peuvent l'être finalement l'ensemble des pollinisateurs, mais comme peuvent l'être aussi les araignées. Les araignées ont un rôle essentiel au niveau de l'agriculture. Voilà, bon. Alors revenons à notre lambris terrestre,
oui.
Cette espèce. Voilà. Cette espèce aujourd'hui n'existe pas dans la loi. C'est-à-dire que j'ai découvert il y a quelques jours, on a l'impression d'être...
Scoop.
Scoop.
Alors on a pas de générique scoop, mais on peut marquer un temps d'arrêt.
Mais allez-y.
Ça m'a donné encore plus de force à ce que vous allez nous annoncer.
Faites un petit truc si vous voulez.
Christophe Gatineau.
Ok. J'ai découvert qu'il existait des pesticides spécialisés pour éliminer les vers de terre, parce que sur les terrains de golf, les petites crottes de vers de terre salissent les balles. Vous le croyez, ça
ne s'invente pas.
Voilà. Alors, je l'ai découvert à l'occasion, justement, un journaliste avait lu mon livre et proposé une solution écologique et s'appuyait sur mon travail, en fin de compte, en disant que, en fait, il suffisait de passer un rouleau pour les disperser et que ça devait suffire et montrer le rôle, justement, écologique indispensable du ver de terre. En tout cas, il y avait des tordus qui avaient pensé mettre au point et pendant des années,
on a cru que c'était un ennemi, le ver de terre, donc.
De toute façon, dans tous les cas de figure, pendant très longtemps, en fait, ver de terre, vermine, tout ce qui vit dans le sol est sale, donc, pour ça, la grande difficulté, c'est vrai que on a ce travail au début du 19e siècle, au 19e siècle, où on apporte des preuves concrètes de l'intérêt du ver de terre, voilà. Bon, mais ça passe pas dans la mémoire collective. Pourquoi ? Parce qu'on considère, de toute façon, les vers de terre, c'est vraiment ragoûtant. Et on pense aussi sur toute la surface de la terre, les paysans pensent, parce qu'on leur a foutu évidemment ça dans le crâne, que les vers de terre étaient aussi des parasites des cultures qui mangeaient les racines des plantes. Vous savez, mangés par les racines. Voilà. Et cette idée, malheureusement, persiste encore aujourd'hui.
Donc, vous attendez quoi ? Vous voulez.
Ce que j'attends,
qu'est-ce que vous souhaiteriez pour le lambric ?
Que le législateur le reconnaisse comme un animal à part entière. Parce qu'en fait, ça fait 200 ans qu'on apporte les preuves scientifiques. Moi, je ne suis pas un scientifique. Moi, je suis un cultivateur. Je cultive la terre, j'observe ce qui se passe autour. Moi, mon travail, c'est de mettre en scène l'information scientifique pour la rendre audible et agréable à digérer. Voilà.
Et surtout pour avoir des résultats.
Donc,
vous avez écrit au président de la République, enfin au précédent. Vous n'avez pas encore écrit à M. Macron, vous avez écrit à François Hollande.
Ça devrait paraître. Enfin, si, il y a des choses qui sont dans les tuyaux. En fait, j'ai écrit à tous les présidentiables, j'ai écrit à tous les responsables politiques, j'ai écrit à M. Hollande, j'ai écrit à tous les ministres de l'écologie. Et justement, je l'ai aperçu, M. François Hollande, il y a quelques jours. J'ai pas osé lui demander, justement. Parce que moi, la question qui reste, c'est quand il a chiffonné ma lettre, est-ce qu'il a réussi un panier à 3 points ? Non, quelque part, ça serait valorisant pour moi, non ?
Il ne vous a pas répondu, en tout cas.
Non, ça lui fait ricaner, le ver de terre. Puis après,
c'est ça, mais c'est un sujet très sérieux. Hein. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Vous êtes passionnant, Christophe Gatineau, sur le ver de terre. Votre livre s'appelle « Éloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir ». Et c'est aux éditions Flammarion.
À votre service, reviens dans un instant. À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes au service du ver de terre. Pour en parler, j'ai invité Christophe Gatineau, agronome spécialisé en permaculture et en agroécologie et qui publie « Éloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir » aux éditions Flammarion. Je rappelle que vous avez également un blog qui s'appelle « Le Jardin Vivant ». Le blog est très vivant, très fréquenté et très bien informé. Vous combattez la monoculture idéologique, la culture d'une seule idée, par exemple. J'en prends un exemple d'idée que vous combattez. L'agriculture est malsaine et la permaculture est saine.
Oui.
Et ça, c'est vrai que la permaculture, alors en ce moment, on l'a à toutes les sauces et c'est formidable, c'est l'avenir.
Oui.
Ça va sauver la planète.
Je ne sais plus quoi dire, en fait. Ce qui va sauver la planète, d'abord, je crois que la première chose qui sauvera la planète, c'est le jour où on essaiera d'expliquer aux actionnaires des multinationales qu'ils vont perdre de l'argent. Voilà. Donc celui qui aura l'astuce pour expliquer aux actionnaires de ces multinationales que plutôt qu'en gagner, ils vont en perdre, moi je lui tirerai mon chapeau. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas inversé ce processus, c'est-à-dire que les multinationales, principalement américaines, évidemment, ont la mainmise sur l'agriculture planétaire. Comment sortir de ce système marchand qui fait qu'aujourd'hui... Je travaillais il y a peu de temps sur les chiffres, quand même prendre en considération qu'en 60 ans en France, 2 millions, un peu plus de 2 millions 200 000 fermes ont fermé. Plus de 2 millions de familles ne vivent plus de la terre. Donc, en fait, ça représente 4 à 5 millions avec toutes les activités parallèles. Je veux dire, aujourd'hui, il reste 330 000 fermes en France. Enfin, je veux dire, et en plus, on exporte dans le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'un modèle de civilisation où 1% de la population produit la nourriture pour les 99 autres pourcents, on voit bien qu'il y a un souci.
Voilà,
le souci, il est là.
Et il faut être clair, c'est que vous ne faites pas confiance aux industriels pour nous nourrir.
Comment leur faire confiance? C'est ça le souci, c'est-à-dire comment leur faire confiance? Parce que le travail de l'agriculteur, c'est de produire de la nourriture pour nourrir son prochain, même si j'aime pas trop ce terme, son prochain, enfin bon, pour nourrir, hein, il apporte de la nourriture, donc ça c'est quelque chose de concret. Un industriel, il est là pour, à la limite, c'est son job. Moi je lui fais pas de reproche, en fait, son job, c'est de nourrir ses actionnaires, la finance, faire du fric, enfin je veux dire, à la limite.
Lui il fait son job, ouais.
Il fait son job, pourquoi pas, moi je lui en veux pas.
Nous on peut faire notre job de consommateur.
Après, oui, mais bon, ça c'est vrai que d'incriminer à chaque fois le consommateur, non, il y a des hommes politiques et il y a des règles dans la société, c'est les règles qu'il faut modifier. Aujourd'hui, les règles sont en faveur des gens qui font travailler l'argent. Bon, pourquoi pas, mais je trouve que c'est une vision, a priori, à court terme, la preuve en est, je veux dire, les sols disparaissent parce que les vers de terre sont en train de disparaître, et donc on va revenir sur ce système. Je vais revenir très brièvement sur ce que vous me disiez tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez du personnel politique? Moi, j'appelle le personnel politique, quelque part, hein, qui devrait, dans une sorte d'imaginaire, être au service du peuple, enfin, du bétail dont nous faisons partie. Moi, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement français investit des millions d'euros pour réhabiliter le loup, pour réhabiliter l'ours. C'est largement discutable. Je sais pas le débat, en fait. C'est pas le débat. Pourquoi pas?
Il y a suffisamment de gens qui débattent là-dessus, d'ailleurs.
Voilà,
en plus.
Voilà.
On parle plus du loup et de l'ours que du ver de terre. Hein.
Absolument. Voilà. Bon, d'ailleurs, on peut s'interroger sur. J'aime bien digresser un tout petit peu. Voilà. Sur l'ours, le fait d'importer une espèce de l'extérieur dans les Pyrénées, etc. Enfin bon, passons. Ça coûte des millions d'euros, parce que ces animaux. Moi, je suis pour la réhabilitation. Provoquent quand même des dégâts, etc., etc. Pas un seul centime sur le ver de terre. Sur le ver de terre, sur la protection, en fin de compte, de toutes ces espèces qui sont absolument essentielles.
C'est ça qu'il faut dire, c'est que finalement, la protection de l'espèce des lombrics, c'est protéger pour nous notre futur.
Bah, c'est protéger notre alimentation.
Notre gamelle de demain.
Voilà, c'est nous mettre à l'abri éventuellement des conflits, parce que de toute façon, les hommes aiment bien guerroyer, hein, ça c'est leur truc, etc. Bon, pourquoi pas après tout. Mais bon, quand ils ont le ventre vide, ça amplifie vraiment les conflits. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est déjà dans la guerre de l'alimentation. Je veux dire que les Chinois ont toujours une longueur d'avance, hein, je veux dire, sur nous. S'ils investissent dans des terres agricoles en France, s'ils investissent dans des usines à lait en Bretagne, s'ils investissent dans des terres en Afrique, je veux dire, ils préparent l'avenir. Et nous, on regarde le train passer peut-être. Hein. Enfin, en tout cas, nos élites sont toujours bien protégées dans tous les cas de figure. Hein.
Alors, j'aimerais qu'on revienne à l'opposition et que vous nous expliquiez un petit peu le concept de sol végétal. Enfin, terre végétale, terre minérale et terre animale. Pour qu'on comprenne bien.
Oui. En fait, un sol est constitué d'une matière minérale. Hein. Alors, comment on pourrait illustrer cette matière minérale? Un sol lunaire est fait que de matière minérale. Le désert, c'est une matière minérale. Et ensuite, il y a la vie qui vit, etc. Qu'on appelle la matière vivante, en fait, hein, qui est constituée d'une grande diversité d'espèces. Et ces espèces, en fin de compte, en se nourrissant, chacun se nourrit sur le dos de l'autre. Hein, je veux dire, c'est comme ça que monte le cycle du monde du vivant, c'est que chacun se nourrit des déchets de l'autre, en fait. Hein. Tout le monde y trouve quelque part son compte.
Ouais, hein, voilà. Et la nature est bien faite, elle trouve toujours une solution.
Voilà. Et en fait, tous ces déchets, eh bien, c'est là-dessus, un moment, un stade, je dirais, ces nutriments deviennent assimilables par les plantes. Et c'est comme ça qu'on fabrique les sols. les sols ne sont pas nés avec la terre, en fait, hein. Ils se sont développés au fur et à mesure du développement du monde du vivant. C'est ça qu'on a oublié. Ça veut dire que, en fait, si les sols disparaissent, bien sûr qu'on pourra reconstituer
mais
les
ça sols. Prendra.
Oui, 1000 ans peut-être, en fait. Hein,
voilà,
parce que
c'est ça qu'il faut comprendre.
Ça demande beaucoup de ressources et de moyens énergétiques.
C'est pas un coup de round-up, les enfants.
Non, pas vraiment.
Hein,
pas vraiment.
Ça prend du temps.
Absolument. Énormément de temps. En tout cas, on aura bien amaigri l'humanité entre-temps. Mmh. Parce qu'en fait, l'humanité, elle ne va pas disparaître. Voilà. Mais on va l'amaigrir. Mmh. Alors, vous me permettez de faire un petit machin, là. Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi les sols disparaissent? Pourquoi on a l'impression qu'on avance en marche arrière? Moi, j'ai calculé, quand je suis né, nous étions 3 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, on est 7,5, 8, dans quelques années, 9, bientôt 10, etc. C'est-à-dire, c'est que si la biodiversité, cette diversité du monde est mal, en l'espèce les vers de terre, mais en l'espèce les oiseaux, etc., c'est qu'on prend une part de la nourriture pour nourrir l'humanité aujourd'hui. C'est ça le souci.
Alors, donc, Christophe Gatineau, un, qu'on reconnaisse au ver de terre le statut d'animal, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan de réintroduction? Comment ça se passe?
Comment ça se passe? Il suffit simplement, aujourd'hui, on a l'agriculture telle qu'elle, cette agriculture, je dirais, moderne, qui a coupé ses liens avec la nature, elle n'est pas rentable. En plus, elle n'est pas rentable économiquement. On est obligé, les agriculteurs français, hein, européens ou américains, les mastodontes de l'agriculture, on les subventionne, en fait. Il suffit simplement d'inverser le processus, de subventionner les agriculteurs qui vont coopérer avec la biodiversité. Qu'importe s'ils utilisent encore un peu des pesticides, qu'importe qu'ils utilisent encore une charrue. En tout cas, un agriculteur qui est sensibilisé à l'intérêt économique de la biodiversité, c'est-à-dire de travailler, de coopérer avec ses vers de terre, de coopérer avec la faune, etc. Il est dans une démarche, il est dans une intention positive. Je veux dire, parce que ne l'oublions pas, je veux dire, c'est probablement le métier d'agriculture, c'est probablement, alors ça va sûrement surprendre vos éditeurs, mais c'est vraiment le métier le plus compliqué au monde, parce qu'on travaille avec un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne saisit pas, parce qu'il n'y a aucun agronome dans le monde qui connaît vraiment comment fonctionne un sol.
On n'a pas terminé sur la permaculture tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous pensez pas que la permaculture ce soit la solution?
La solution, c'est pas les mots, en tout cas. Hein. Ce sont les...
Donc aujourd'hui, c'est quoi? La permaculture, c'est trop un mot, c'est trop un concept, c'est trop à la mode.
Disons que vous savez l'origine du mot permaculture, en fait. Hein. Cette idée, elle est née aux États-Unis, justement ceux qui nous ont importé leur agriculture.
Je pensais que c'était en Australie, moi, figurez-vous.
Non, c'est né aux États-Unis en 1910. En fait, cette idée de la permanence de l'agriculture, c'est-à-dire que ce modèle américain qui s'est répandu sur toute la planète, un peu comme l'huile sur le feu. Bien au départ, il y a des agronomes, parce qu'en fait, cette inquiétude, ce sont des agronomes. Ils ont dit, mais est-ce que l'agriculture va être permanente? Jamais aucun agriculteur s'était posé la question. Je veux dire que c'était la vie sur Terre était plus ou moins éternelle, perpétuelle finalement, quoi, voilà. Et tout d'un coup, les Américains, aux États-Unis, avec leur façon de travailler les sols, où ils ont justement très vite, ils ont coupé leur lien avec la nature, les agronomes se sont aperçus que les sols partaient. On était au début du 20e siècle.
Ah, 20e.
Voilà. Et donc en 1910, il y a un groupe d'agronomes qui ont sorti un bouquin sur la permanence de l'agriculture. Voilà, point d'interrogation. Et après, cette idée, elle a fait son chemin, etc. Bon. Et elle renaît en Australie, encore un autre pays colonisé, je veux dire, où malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Voilà. C'est-à-dire que
il y a eu un génocide.
Génocide, et les colonisateurs, en fait, ont tenté d'exterminer toute la culture, alors que les dernières recherches mettent en avant que les aborigènes ont fait pratiquer il y a 15 000 ans l'agriculture. Qu'importe, le problème n'est pas là. Donc là renaît cette idée. Au départ, permaculture, c'était permaculture, c'est la contraction de ces deux mots, c'est-à-dire comment retrouver une agriculture permanente. Mais en France, il y a 50 ans, on se posait pas le souci. Moi, je suis né dans une ferme en permaculture. Enfin, je veux dire que c'était en autonomie. On travaillait avec ça.
C'était la norme, en fait.
C'était la norme. Et ouais. Vous savez, à l'époque, moi, Mino, je vivais très mal parce qu'on était aussi considérés comme des arriérés. On nous pointait du doigt. On a poussé mes grands-parents. On a poussé et mon grand-père, un de mes grands-pères, il comprenait pas, en fait, pourquoi on lui demandait de passer des pesticides. Et pourtant, on doit dire. Malgré tout cette modernité dans l'agriculture, il y a une chose qu'on ne doit pas enlever, c'est que ça a enlevé quand même de la pénibilité au travail. Je vais vous prendre un exemple. Moi, quand j'étais gamin, mes copains dont les pères étaient, dont les pères, parce qu'à l'époque c'était surtout les pères qui travaillaient, enfin bon voilà, et les mères au foyer malheureusement. Et moi mais les jours où il n'y avait pas école, j'allais miner les betteraves, et quand on minait les betteraves, c'est-à-dire c'est les arcliers, enlever les mauvaises herbes, et peu de gens se souviennent que ça se... On faisait ça, cette opération, on la faisait au pic du soleil. Pourquoi ? Mais parce que si vous dérangez une plante au pic du soleil, elle va mourir rapidement. Donc voilà, c'était notre bâtiment. Et quand je passais des jours à biner ou à biner la vigne, je veux dire, je pensais qu'il y a une chose. Quand le glyphosate il est arrivé, on dit c'est génial. Hein. Des jours passés au pic du soleil, comme j'ai envie d'employer cette expression, ça n'a rien de bandant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un travail. Travailler à la chaîne.
Prévenez-moi, Christophe Gatineau, me dites pas après. Donc non. Ça n'a rien de transcendant.
Oui.
Biner, en plus avec un mot pareil. Je veux dire, faut se méfier. On les voit pas arriver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où finalement le moindre effort physique est assisté quand même.
Absolument. Donc revenons à la permaculture. C'est pas avec des mots qu'on va changer le modèle agricole. Je veux dire, c'est avec des actions. Pour moi, il y a deux types d'agriculture aujourd'hui. Une agriculture qui coopère avec la biodiversité, avec la diversité biologique, qui coopère et qui avec la nature, on va simplifier avec la nature, et une autre qui coopère pas avec la nature, et dans la permaculture et dans l'agroécologie, il y a des courants où on ne coopère pas. Quand on fait une butte, on ne coopère pas, hein, je veux dire.
Pourtant, on n'a jamais vu autant de petites échoppes qui se créent avec des magasins responsables bio. Je sais pas si vous avez vu.
Oui, j'en ai
retour à l'ancienne.
J'en ai rarement vu dans les banlieues, par contre.
Donc pour vous c'est un phénomène bobo.
Je sais pas, je vous laisse.
Ne me laissez pas. Coopérer.
Tout est commerce aujourd'hui. Tout est commerce.
Voilà. Donc c'est du commerce.
Bien sûr.
Bien. En tout cas c'est passionnant. Sérieusement, cette histoire de vers de terre est passionnante. Vous avez été surpris par votre succès? Ça fait 2 mois que je vous attends. Hein. J'ai pris rendez-vous il y a deux mois. Tout ça pour que vous arriviez en retard. Mais pour dire que vous êtes très... vous avez eu énormément de succès.
En fait, je viens du spectacle. J'aime mettre les mots en scène. J'aime j'écris ça un peu comme un film, en fait, avec une introduction. J'embarque les gens dans mon monde et dans le monde du ver de terre. Et là-dessus, voilà, pour moi... C'est comme un film, hein. Soit on le met à la poubelle, soit on rentre dedans. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de vous bourrer d'informations, c'est de vous troubler, de vous perturber, de vous donner envie d'aller la chercher après l'information. Donc voilà.
Exactement. Vous ne parlerez plus jamais et vous ne verrez plus jamais le ver de terre de la même façon.
Je crois qu'il y a. J'étais à la foire du livre de Brive le week-end dernier où ça a très très bien fonctionné. Je disais aux gens, et c'est pas par prétention vraiment pas, mais c'est les retours qu'on a depuis 2 mois. Il y a un avant et un après, en fait. Et il y a même des gens qui me disent, c'est embêtant. Mais vous savez, les premiers témoins de tout ça, ce sont mes fils, tout simplement, parce que eux, ils sont pas branchés à l'agriculture, évidemment.
Oui. Ils ont toujours entendu parler de ça.
Toujours entendu parler de ça. Et puis, ils habitent en ville, ils sont dans l'informatique. Enfin bon, ils sont 3.0, hein, évidemment, voilà. Mais ils sont un petit peu embêtés parce que quand ils ont lu, il y en a un, ils me disaient, mais quand je prends une bêche, ne serait-ce que pour creuser un trou, il dit, je suis embêté maintenant, je cherche une fourche, et puis si j'en coupe un en deux, je sais que je lui tranche l'estomac, je lui tranche l'intestin, pardon, et évidemment, quand moi c'est cette idée
qu'est-ce qui se passe quand on le coupe en deux, le ver de terre, en fait hein?
Vous savez, un ver de terre, un lombric terrestre, à un bout, il a une bouche avec des papilles gustatives, c'est-à-dire il analyse le monde, et à l'autre bout, il a ce qu'on appelle un trou du cul, un anus, hein, etc. Voilà.
Et au milieu?
Quand vous le coupez, ça fait un peu le même effet que sur nous, quoi.
Mais ça fait pas deux vers de terre. Contrairement à ce qu'on disait, vous voyez.
C'est vrai que sur la terre, il y a beaucoup de trous du cul, mais bon, oui.
Voilà, c'était le mot de la fin, quelle belle conclusion. Quel sens de la sortie de scène, hein, Christophe Gatineau. Votre livre s'appelle Éloge du ver de terre. Sous-titré Notre futur dépend de son avenir aux éditions Flammarion. J'avais bien fait d'attendre, hein, finalement. Ouais. Deux mois, vous les méritiez largement.
Okay.
Merci de vous être arrêté sur Beurre FM.
C'est moi qui vous remercie.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.